L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour continuer ce chemin concernant la mission, la nouvelle évangélisation de l'amour conjugal. Nous avons l'autre jour approfondi et accueilli un peu plus les paroles de Jean-Paul II concernant la nouvelle évangélisation en général et celle plus particulièrement du couple. Et aujourd'hui, nous voulons approfondir, Maud, les enjeux de la nouvelle évangélisation dans le monde qui est le nôtre, ce début du 21e siècle, ce troisième millénaire.
Voilà, et nous allons nous laisser interpeller par les paroles mêmes de Jésus dans l'évangile de Saint-Luc concernant justement cette lecture de ce qu'il se passe autour de nous.
Lorsque vous voyez un nuage se lever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-elle. Et lorsque c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il va faire chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez discerner le visage de la terre et du ciel, et ce temps-ci alors, comment ne le discernez-vous pas ?
Voilà, nous avons à apprendre à discerner, Alex, même si c'est difficile à dire, quels sont les signes des temps autrement que sur la météo, où là, bon, bah, Monsieur Météo se charge de faire ça pour nous, et nous avons aussi toute l'expérience de nos parents et grands-parents qui nous apprenaient à lire les signes de la nature. Mais voilà que Jean-Paul II, en père, et Benoît XVI et nos papes en général veulent nous apprendre aussi, sous l'interpellation du Christ, à discerner ce qui se vit et ce qui se passe dans les temps qui sont les nôtres.
Et c'est là où nous avons souligné depuis deux émissions combien la détresse de ce monde au niveau conjugal, sexuel, mariage est grande, très grande et très négative et douloureuse à la fois pour les conjoints et par conséquence pour les parents et pour l'ensemble de la société, et qu'en parallèle justement se met justement en route comme un chantier comme peut-être jamais dans l'histoire de l'Église concernant justement l'évangélisation du mariage, de la famille et de la vie. Et on a justement, c'est cela, les signes des temps, le contraste entre une expérience profondément douloureuse, comme peut-être rarement l'humanité l'a connue au niveau conjugal et amoureux, et à la fois un chantier, une bénédiction, dont Jean-Paul II a été peut-être un des signes les plus importants, et les différents mouvements de spiritualité conjugale, comme les équipes de Notre-Dame ou d'autres mouvements, ont été comme les prémices d'un chantier extraordinaire qui va sans doute marquer le début de ce troisième millénaire.
Voilà, puisque je trouve effectivement significatif dans l'histoire de l'Église, qui quand même n'est pas une petite histoire, qui a quand même de plus de 2000 ans, c'est qu'on voit que l'Esprit-Saint suscite à chaque fois les anticorps au bon moment, quand il le faut. Et là, l'anticorps que nous devons susciter, c'est cette parole d'espérance sur l'amour et sur la vie. Et s'il y a autant de perturbations, si je puis dire, sur les repères fondamentaux, éthiques et humains et anthropologiques, alors la voix de l'Église est encore plus attendu, et la voix des chrétiens de chacun d'entre nous. C'est pas simplement à nos responsables de hausser le ton, c'est à chacun d'entre nous de signer par notre vie, d'attester par notre vie et d'éclairer par les paroles que nous sommes serviteurs de la vérité et que cette vérité nous rend libres et nous rend heureux et nous fait rentrer dans la plénitude de l'amour.
Et c'est là, Emo, tu es souvent à dire: je ne veux pas être rendu responsable de ne pas avoir répondu, de n'avoir pas secouru des personnes qui sont en danger. Et ce n'est pas simplement le sentiment, entre guillemets, de Maud, puisque si jamais ce sentiment existe, c'est qu'il a été discerné à partir de la parole de l'Église et de la révélation. Comme le dit effectivement Jean-Paul II dans cette lettre extraordinaire, la plus belle lettre que l'Église sans doute a écrite aux couples et aux familles, la lettre aux familles de Jean-Paul II, où il dit: l'amour conjugal est-il envisageable sans le Christ et sans l'amour dont le premier il nous a aimés? Il répond: sans lui, cela constitue indubitablement un grave danger. Effectivement, aujourd'hui, Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des couples heureux et couples paisibles et qui rayonnent, etc., qui ne connaissent pas la foi. Mais aujourd'hui, ça devient effectivement de plus en plus rare. Et dit l'Église, confesse l'Église, si on ne s'inscrit pas dans l'accueil de la révélation, eh bien effectivement, il y a un grave danger que les desseins de Dieu, les desseins de bénédiction de Dieu concernant le couple et la famille, eh bien ne soient pas respectés pour le malheur de l'homme.
Bien sûr, et nous retrouvons là justement la fameuse première grande douleur de l'homme et de la femme à la Genèse, lorsqu'ils ont voulu imiter Dieu et être comme des dieux et pas simplement à son image, c'est-à-dire en se laissant approprier la vie divine en eux, en laissant grandir en eux. Ils ont voulu saisir. Eh bien, on a l'impression aujourd'hui que dans notre société, on reproduit ça. L'homme et la femme désirent saisir la vie, créer les familles comme ils les veulent, en gré de leurs sentiments, de leurs impulsions, de leurs passions. Et on rentre dans une sorte de turbulence majeure qui secoue tout le monde et où finalement tout le monde est perdu à vouloir comme ça s'ériger comme maître de sa vie et de ses sentiments. Faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut, eh bien voilà qu'on arrive à des aberrations. Et les chrétiens sont là pour dire attention, attention, écoutez la vérité, écoutez le chemin.
Ah, c'est pour ça que Jean-Paul II décrit tout l'enjeu de la nouvelle évangélisation du mariage. Et il dit, c'est vraiment, l'Église appelle les couples chrétiens et les jeunes à approfondir et à se nourrir de ce grand mystère du mariage tel qu'il est révélé par l'Église. À se laisser transformer et sauver par cette révélation du Christ qui soit accueilli au cœur de nos vies. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut annoncer et proposer avec force et courage et enthousiasme à ceux qui méconnaissent ce trésor et qui sont souvent, dit-il, les témoins impuissants mais contaminés d'une civilisation malade. Et il rapporte les propos de Paul, tel un troupeau errant, comme un peuple errant, et reprenant également les paroles du Christ, comme un troupeau sans berger. Nous avons vraiment, parce que c'est vital, parce que c'est fondamental, c'est pas une option accessoire, c'est fondamental, c'est au cœur du programme. C'est au cœur du programme informatique de l'homme d'être à l'image de Dieu. Et il ne trouve son bonheur que quand il rentre dans l'accueil de cette révélation et dans la guérison du péché qui l'empêche de vivre cette révélation.
Un journaliste citait une phrase d'un homme politique qui disait qu'on mesure la validité du message à l'énergie de vie qu'on est prêt à mettre dedans. Et ben voilà que la validité du message sur l'amour, eh bien c'est notre vie. Nous devons le signer de notre vie et nous devons engager toute notre énergie à transmettre ce message de bonheur. Nous ne pouvons pas laisser enfoui ce bonheur que nous avons entre nos mains. Nous avons un trésor qui n'est pas fait que pour nous. Et comment le garder alors qu'autour de nous voyons tant et tant sombrer dans la souffrance à cause de cette ignorance. Et nous n'avons pas, ce n'est pas une question de jugement, c'est une question d'ignorance. Le message du Christ n'a pas touché leur cœur. Ils ont peut-être reçu une annonce qui est restée au niveau de leur tête, au niveau de leur d'une conception, d'une sorte de culture chrétienne. Mais ils n'ont pas rencontré le Christ pour embraser leur vie et changer fondamentalement l'espérance qui est dans leur cœur.
C'est pour ça que l'Église est parfaitement conscient que cette mission, cette évangélisation, ce renouveau de la mission auprès des couples et des familles doit s'appuyer sur les couples et sur les familles. La nouvelle évangélisation, dit Jean-Paul II, ne manquerait pas de susciter un nouvel esprit missionnaire qui ne saurait pas du tout être réservé à un groupe de spécialistes, mais qui engage la responsabilité de tout le peuple de Dieu, vécu comme un engagement quotidien de proposer le Christ à tous et avec confiance. Voilà, c'est quelque chose, nous sommes tous mobilisés là-dedans, dans cette mission. Nous avons à expérimenter qu'il est le salut et à proposer ce salut. Et ça, ça concerne donc tous les baptisés.
Voilà, alors nous ne sommes pas encore en train de décrire les moyens de proposer la foi, nous y viendrons dans les émissions suivantes, mais déjà au moins, avoir cette flamme en nous de l'esprit, raviver cette flamme, la cultiver, pour avoir cette ardeur apostolique, ce zèle apostolique. Ce n'est pas un zèle pour convertir, c'est un zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Et comme disait la petite Bernadette à Lourdes, je ne suis pas chargée de vous convaincre, je suis chargée de vous le dire. Alors bien sûr qu'il faut mettre une force de conviction dedans aussi, sinon ça fait une sorte je me dédouane, ça peut faire un peu, je dirais, un message ambigu. Donc nous devons évidemment investir dans nos personnes. Mais nous avons vraiment à rentrer dans ce désir d'annoncer la source de notre bonheur, que nous ne pouvons pas garder pour nous.
Et en cela, vraiment, nous rejoignons une conception fondamentale de l'Église, que la mission d'évangélisation est la plus importante et la plus sacrée de l'Église. C'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est pour cela que nous devons revenir, comme le dit Jean-Paul II, aux fondamentaux des Actes, où il est dit, tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que l'évangélisation et la mission pour les couples et les familles, bah, bien sûr, elle peut se faire dans le cadre d'activités ecclésiales, de mouvements, etc. Mais c'est d'abord dans nos vies, dans nos maisons. Et que le terreau de l'évangélisation et de la mission des couples et des familles, c'est dans nos maisons, dans notre vie, au niveau du travail, au niveau de l'accueil, au niveau des enfants, etc., etc., pétri dans la vie. C'est-à-dire que la mission n'est pas réservée à une heure ou deux heures de réunion par semaine ou par mois, ou d'activité à droite à gauche. Mais voilà, ça fait partie de notre vie, dans les personnes que nous côtoyons. Nous avons à témoigner du Christ, bien sûr, toujours avec discernement, de manière opportune, mais aussi, dit la parole, à temps et à contre-temps.
Voilà, nous retrouvons dans quelques minutes.
Voilà pour approfondir les enjeux de la nouvelle évangélisation, de l'amour conjugal et du mariage.
Voilà, nous avions terminé justement sur cet envoi en mission quelque part qu'ont renouvelé les papes en considérant que la famille et la petite église domestique que nous formons est le lieu premier de notre évangélisation conjugale.
Et en rappelant les actes fondateurs de l'église où l'évangélisation était annoncée dans le temple, dans l'église, etc., et aussi dans les maisons, et donc c'est bien l'appel au niveau des couples.
Voilà, alors nous avons parlé de cet appel qui est extraordinaire, mais il faut voir aussi à quoi se heurte l'appel.
Il y a un peu tout un paradoxe missionnaire de ce contexte qui est tout à fait nouveau. On est dans un monde qui est vraiment particulièrement sans Dieu et sans espérance, le monde en tout cas occidental nous le démontre tous les jours, qui attend la révélation sans le savoir et bien souvent sans le connaître, et tout en ayant explicitement rejeté ce Seigneur, en faisant de lui-même et de ce monde et de l'argent et de ses idoles vraiment son Dieu. Et même il déteste sans raison les disciples rappelle Jean, et bien souvent, il méconnaît et refuse l'évangile.
Voilà, c'est-à-dire que quand on est appelé à annoncer à temps et à contre-temps, il faut s'attendre aussi à se heurter à des rejets et à des attitudes pas forcément sympathiques.
Voilà, fondamentalement, il attend l'évangile, mais au niveau de sa conscience, non seulement il n'y a pas cette conscience-là, mais en plus, il y a même plutôt le rejet. Voilà. Et donc c'est pour ça que, dans un contexte où finalement nous ne sommes plus du tout dans une société chrétienne, et ça Jean-Paul II est aussi très clair pour bien expliquer le sens et le pourquoi de la nouvelle évangélisation. Tu veux nous le rappeler, Maud, ce qu'il dit ?
Voilà, on doit considérer comme dépassé dans les pays d'ancienne évangélisation la situation d'une société chrétienne qui se référait explicitement aux valeurs évangéliques. Voilà, il l'a dit même plusieurs fois, nous sommes maintenant dans une société sécularisée où il faut réévangéliser.
Et on est vraiment quasiment dans un patchwork de religions, j'aime bien aussi l'expression, un supermarché des croyances, des philosophies et des différentes idéologies, spiritualités, etc., où le meilleur côtoie le pire. C'est une véritable barnum dans lequel chacun se fait un peu son petit frichti spirituel, etc., et dans lequel, effectivement, ils sont complètement dévoyés. On se retrouve tout à fait dans l'expérience, je dirais, qu'il y avait à Rome ou qu'il y avait à Athènes, du temps du Christ.
Voilà, c'est l'agora.
C'est l'agora où il y a même des dieux,
inconnus.
Des statues aux dieux inconnus. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est le supermarché.
Et d'ailleurs, tous les mœurs aussi, qui étaient relativement débridés à cette époque-là aussi, et qui amenaient un peu à l'effondrement de cette civilisation. Nous savons que nous sommes dans cette ambiguïté, à la fois d'une détresse immense, et comme tu dis, d'un monde complètement sans Dieu, et à la fois d'une soif énorme. Et c'est cette soif-là qui nous tient.
Bah, regardons par exemple tout le monde intellectuel, médiatique, etc., qui vraiment prend complètement ses distances vis-à-vis de la foi. Mais quand le pape vient en Bernardin, eh ben, on se précipite et ce sont des milliers de candidats qui voudraient être là pour écouter le pape et qui ne peuvent pas rentrer. Il n'y en a que 700 qui sont invités. Alors que tout le monde des médias, de la pensée, etc., et de la culture voudrait être là, voudrait être invité. Donc ça montre bien qu'il y a rejet et à la fois une profonde aspiration, parce que qu'est-ce qui reste de tangible, de qui est vraiment une référence? Il y a une profonde soif de la révélation. C'est pour ça que Jean-Paul II et Benoît XVI à sa suite veulent vraiment travailler à une remobilisation radicale de l'Église dans le domaine de la mission d'évangélisation du couple et de la famille.
Voilà, je trouve que notre pape ils ont en général un humour extraordinaire, parce que dans une situation où on pourrait s'estimer complètement, battu en brèche et dans une situation dramatique, il annonce qu'il est le temps d'engager toutes les forces dans une nouvelle évangélisation, parce que nous sommes dans une époque qui a besoin d'une impulsion missionnaire nouvelle et que nous n'en sommes qu'au début. Donc il inverse complètement la perspective, alors que le monde nous dit l'Église est en perte de vitesse, et il dit attention, nous sommes au début de cette vague missionnaire, il y a un travail énorme, une soif énorme, et nous, couples, sommes engagés en première ligne dans cette mission.
Et c'est pour ça que c'est ça qui est extraordinaire, je trouve vraiment, on pourrait se dire, pour beaucoup d'observateurs, attends, le bateau coule complètement. Et il se dit, ça y est, on a la clé, et c'est vraiment nous qui avons la clé. Eh bien oui, profondément, c'est souvent d'ailleurs dans ces situations historiques profondément délicates, profondément confusantes, que justement le génie du christianisme, le génie de l'Esprit Saint, le génie de Christ apparaît et ressort. Voilà, et c'est pour ça que nous sommes vraiment dans ce temps, dans cette naissance de ce troisième millénaire, vraiment dans ce temps missionnaire d'exception qui sans doute est en train de naître, de renaître. Et c'est pourquoi, là encore, nos papes soulignent combien il faut que les chrétiens, et pas simplement les prêtres et les religieux, mais le peuple de Dieu qui a saisi la puissance de l'Évangile, il faut que ces chrétiens aient la même disponibilité que les apôtres pour écouter la voix de l'Esprit, le même courage pour relever les nouveaux défis missionnaire.
Voilà, donc nous sommes, nous, couple engagé, avec nos enfants, dans cette mission, où parce que nous vivons un bonheur immense dans le Christ, nous avons le désir de le communiquer à d'autres. Et il faut se souvenir aussi cette parole très consolante qu'on trouve dans l'Évangile, là où le péché... Non, pas dans l'Évangile, pardon, c'est saint Augustin qui a dit ça, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc là où nous sommes dans une détresse immense, l'Esprit-Saint envoie des paquets de grâce et d'énergie et de courage pour justement permettre à ceux qui sont témoins de la lumière de Christ de briller au milieu des ténèbres. Voilà aussi ce que nous voyons, nous commençons à voir. Et dans ces jeunes familles, ces jeunes couples que nous découvrons, cette énergie de l'évangélisation qui leur donne un rayonnement absolument inouï que nous n'avons jamais vu depuis des générations. Et je crois que c'est ça aussi les signes de l'Esprit-Saint.
Alors, c'est là où l'Église aussi alerte et aiguillonne aussi le peuple de Dieu par rapport à cette dynamique missionnaire. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes de couple qui disent « Moi, je suis prêt à vivre ma foi, mais je ne suis pas prêt à vivre vraiment la mission. » Et alors là, Jean-Paul II pose une question très précise, dans son encyclique sur au début du nouveau millénaire. Il dit « Celui qui a vraiment rencontré le Christ, il ne peut le garder pour lui-même, il doit l'annoncer. Ou alors, dit-il, si je n'ai pas le goût de l'annoncer, mais est-ce que j'ai vraiment rencontré le Christ ? Il pose la question, est-ce que j'ai vraiment la foi ? Est-ce que celui qui ne déborde pas du désir d'aller annoncer l'Évangile, mais est-ce qu'il a vraiment rencontré le Christ ? Est-ce que c'est la personne la plus importante pour lui ? Donc c'est une question personnelle pour les personnes, les individus, mais c'est aussi une question, dit-il, concernant les communautés. La mission est le signe le plus clair de la maturité de la foi. Elle témoigne d'une conversion radicale de son état d'esprit, tant au niveau des personnes que des communautés, dit-il. Et c'est pour ça aussi qu'il relie à un moment les moments de crise de l'Église, notamment qu'on a pu connaître plus récemment dans les années 70, 80, etc., où effectivement on était plutôt rasage de mur au niveau ecclésial, au niveau de la foi, etc. On avait peut-être besoin de passer par un temps de purification, peut-être, mais en tout cas, il a dit, mais vraiment, qu'on est plus nourri par le zèle de la mission, les débordements de la mission, qu'on est plus convaincu qu'on est vraiment dépositaire du trésor de la vérité qu'est le Christ, c'est pas nous le trésor, c'est pas nous, on n'a pas à avoir un orgueil en nous-mêmes, au contraire, on sait ce qu'on vaut, entre guillemets, mais c'est le Christ que nous avons à indiquer et à montrer.
Voilà, donc à la lumière de cet impératif missionnaire, comme dit Jean-Paul II, on pourra apprécier la valeur des organismes, des mouvements, des paroisses, des œuvres de l'Église, et on pourrait rajouter à l'ex de nos familles. C'est-à-dire que si nos familles débordent et que la mission se fait naturellement par l'annonce de la foi et le témoignage de la vie, alors nous serons des lieux d'évangélisation et nous pourrons attester de la force qui se vit dans nos familles.
Ah, mais c'est, moi, tu soulignes quelque chose, tu passes vite sur un point qui est très, très important, c'est-à-dire que Jean-Paul II et l'Église est en train de donner un élément, une clé de discernement sur la foi authentique à la mesure de la dynamique missionnaire qui habite nos cœurs. Ce sont des charismes et des modalités qui peuvent être extrêmement différentes, bien entendu, mais que vraiment, il nous donne un élément de discernement. Voilà. Et donc, non seulement c'est un élément de discernement, mais en plus c'est aussi un outil d'unité où il révèle que c'est en devenant missionnaire que la communauté chrétienne pourra dépasser ses divisions et ses tensions internes et retrouver son unité et la vigueur de sa foi. La mission crée l'unité dans l'Église. Et ça, combien de fois depuis 25 ans, Maud, nous en sommes également les témoins.
Voilà, et dans nos familles, c'est peut-être la même chose. La mission peut être aussi un facteur d'unité et de foi et d'espérance et ça, dans nos familles.
Je peux vous dire que nous en sommes vraiment les témoins les témoins de voir qu'une cette dynamique missionnaire partagée de manière extrêmement différente avec des charismes si différents entre les conjoints, les enfants, etc. Et ben cette dynamique, ce zèle crée une unité, une joie et une exultation qui est vraiment un don de Dieu et qui ne peut pas être un don humain. Voilà, en tout cas, c'est cette joie missionnaire que nous espérons pour chacune de vos couples, de vos familles, selon les charismes qui sont les vôtres, les modalités, les dons de l'Esprit, les appels du Seigneur. Que le Seigneur vous conduise, vous bénisse, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. The intimate friendship of the Holy Spirit.